Toujours sur les services publics. Je pense qu'il y a un point sur lequel on pourrait vraiment faire une grande réflexion. Et là, je m'adresse aux gestionnaires de ressources humaines de l'État, parce que à force de fusionner des communes, de fusionner des communautés de
communes. Alors, je vous remercie, monsieur, parce que là, on rentre dans le thème 2, effectivement.
Voilà, mais non, mais on reste dans le service public, hein. On est bien dedans.
Hein. Et on y est.
De fusionner des régions, etc., on arrive à avoir des postes en doublon, en triplon, en quadruplon, en quintuplon, et là, il y a véritablement des économies à faire. Parce que quand des boîtes privées fusionnent, l'effet synergie, je vous assure, il est là. C'est-à-dire que les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, voire éventuellement des charrettes. Mais ça, c'est un autre débat. Au niveau du service public, ça devrait être la même chose. C'est pas parce qu'on rentre dans un service public qu'on y est à vie. Je crois qu'on est au 21e siècle, on n'est plus dans ce débat-là.
Ça concerne aussi les services publics. On a un appel, on le prend, et après, tu veux prendre la parole aussi, on va te la donner. Tout de suite, si c'est pas longtemps, on va laisser l'interlocuteur au téléphone. Oui, faut y aller.
Bonsoir, moi je m'appelle Jacques Zimmer, moi, je suis enseignant. Je vous dis bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Pichereau. J'ai oublié de nous dire bonsoir, mais moi je vous dis quand même bonsoir. Je voulais juste... Il y a quelque chose qui m'épate quand même à La République En Marche. Et là, Blanquer, il nous a quand même dit il y a quelques semaines que c'était formidable, les dédoublements, que les gamins réussissaient super bien. On avait c'était super, quoi. Et puis nous, dans les petits collèges ou dans les petites écoles, on nous matraque et on nous supprime des postes, et vas-y. Alors, on se retrouve avec des classes de 30, avec des gamins qui ont, pour la plupart, beaucoup de difficultés. Alors, moi, j'aimerais savoir concrètement ce que vous en pensez, vous, et ce que vous comptez faire. Ce que vous comptez faire concrètement dans les établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles en campagne, comme ça, parce que nous, on sait pas quoi. Alors, si, pour supprimer, ça supprime. Alors... quand on demande la priorité, quelles sont les priorités dans le service public, une des priorités, parce que moi je mets tout le service public à l'échelon 1, tout est prioritaire, et il faut voir où est-ce qu'on peut aller, et on revient au débat qu'on avait au départ, où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent. Et l'argent, elle existe. Si vous n'avez pas d'idée, si La République En Marche n'a pas d'idée, il y a une solution, faut s'arrêter. Faut pas nous laisser aller dans le mur. La France, elle a pas besoin d'aller dans le mur. Non, on n'y est pas encore, mais on va pas y être loin, là. Mais il faut changer de logiciel, c'est tout. Voilà ce que j'ai à dire.
Damien Pichereau, vous pourrez répondre tout à l'heure. Pour l'instant, on va prendre l'appel téléphonique, hein. Oui, bonjour, monsieur, oui. Est-ce que
bonjour,
vous m'entendez?
C'est Gérard Séché.
Ah, Gérard. Alors, oui. Crissé.
Alors, je suis surpris, je viens d'entendre Jacques Zimmer. Comme moi, il est originaire de Crissé. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu la photocopie que j'envoie. Alors, complètement d'accord avec Jacques, là, tout ce qu'il vient de dire au niveau scolaire. Moi, en 83, j'ai été élu. Trois mois après, il y avait un GAP, ça s'appelait un groupe d'aide psychopédagogique pour aider les enfants en difficulté, qui a été transformé en RAZED, avec, il y avait dans le canton de Ballon, quatre classes spécialisées, avec un psychologue, avec deux rééducateurs. Le RAZED, on l'a sauvegardé difficilement, les classes spécialisées n'existent plus. Les enfants en difficulté, on les a remis dans des classes, entre guillemets, soi-disant normales, et les pauvres gamins, je dis bien les pauvres gamins, on les met à la rue. Donc, moi, ce qui m'inquiète, ça, je vous parlais de 83, j'avais envoyé un extrait de Ouest-France en 94 au congrès des maires, où je me soulevais contre Requiem pour une campagne défunte. J'ai renvoyé la même lettre. Là, j'étais élu en 94. Hein. J'ai été état d'âme en 2008. Rien n'a changé. Et je m'aperçois qu'actuellement, en 2018, tout s'est empiré. La situation s'est aggravée par l'accentuation des inégalités. Le monde associatif continue à œuvrer pour lutter contre le repli sur soi, l'individualisme, pour redonner confiance à ceux qui se sentent laissés pour compte. Que nos gouvernants en fassent autant pour amener les gens vers les urnes en les écoutant. Qu'aux prochaines élections municipales, davantage de gens aient envie de s'engager, car la fonction d'élu au sein d'un conseil municipal est le premier degré de l'expression démocratique. Et je termine en disant que l'énarchie ne doit pas entraîner l'anarchie.
La formule est belle.
Je vous remercie. Mais en espérant, avec mon expérience, maintenant je suis simple citoyen, mais par moment, j'ai envie de déchirer ma carte d'électeur. On se fout de la tête du peuple, disons. Quand je parlais d'énarchie, c'est vrai que les élus de terrain qui connaissent les réalités, on les prend pour des...
Alors, bon. Gérard, ce que vous expliquez ici, on le sent bien, c'est du ressenti très très fort qui s'appuie sur l'expérience. Mais concrètement, comment vous pensez qu'on pourrait réactiver cela et puis éviter que la dérive continue depuis le temps que vous avez expliqué? Est-ce que, en termes de mesures d'urgence là-dessus, vous avez quelques idées?
Eh bien, mesures d'urgence, déjà, c'est toute la société. C'est le phénomène est de la société. On a voulu individualiser les gens. Moi, j'appelais ça une maladie, le nombrilisme. On a appris aux gens à se regarder le nombril, y compris sur les lieux de travail, au lieu de s'entraider, chacun essaie de bouffer l'autre à côté. Donc, deux choses qui me paraissent fondamentales, de refaire et d'aider la vie associative, c'est-à-dire que les gens s'investissent au lieu de consommer. Au niveau associatif, mais il faut des moyens, alors que les moyens disparaissent de plus en plus. Donc, écoute, je peux en dire beaucoup plus. Tu me dis, hein.
Eh ben, je pense que ça va être bien, là, comme ça, parce que il faut aussi que la salle intervienne. On te remercie, Gérard, d'être intervenu ici avec l'expérience qu'on te connaît.
Je le disais tout à l'heure.
Ah, je savais qu'il avait encore quelque chose à dire, Gérard.
Je parlais des enfants, c'est par rapport aux jeunes. Il faut absolument sauver les jeunes du gouffre où on les emmène et aider les retraités, puisque la CSG, on fait des cadeaux au niveau de l'ISF, on fait payer des retraités qui ont bossé toute leur vie, certains qui vivent mal. Je crois que les inégalités, elles se sont accentuées. Donc, c'est les deux choses que je souhaite profondément.
Merci, Gérard, pour cette intervention au téléphone. On va reprendre maintenant les interventions dans la salle. On a un micro quelque part. Oui. On vous écoute, oui, madame. On se présente toujours. Bien dans le micro, bien dans le micro.
Monique Moutin.
Non, c'est mieux maintenant. Non, pas de souci. Non.
Moutin de Peuzelle-Robert. Oui, ça y est, ça marche. Donc, ça va être un peu terre à terre, mon intervention, par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce qu'il me semble que, tout simplement, dans ce qui arrive maintenant, on a oublié de faire le bilan. Pourquoi en sommes-nous là? J'ai connu 1968 au Mans. Et Monsieur Poincheval, vous pouvez ajouter un mort de plus à votre énoncé, puisqu'il y en a un qui s'est pris une grille de la préfecture et qu'en est mort. Donc ça fait un mort de plus pour Le Mans. Mais qu'est-ce que j'ai connu après 68? L'augmentation terrible des matières premières et des produits qui ont été fabriqués en France. Et ces produits étant devenus trop chers, n'ont plus été achetés par les Français, qui ont commencé à acheter du Made in China, pendant qu'ils voulaient absolument, et moi j'en fais partie, hein, je reconnais, je suis allée, j'étais une des premières clientes du Carrefour du Mans, parce que quelquefois, par rapport aux commodes de la rue Nationale, c'était moins cher. Et j'ai fait ça, mais on a été des milliers à faire ça dans toutes les villes et dans les campagnes aussi. On a pris les voitures pour aller acheter des produits moins chers dans les grandes surfaces. Et au fil du temps, ces employés qui faisaient une pseudo-économie et qui en même temps, je rebondis sur ce que disait Monsieur Amiard, ont déchiré leur carte syndicale, parce qu'ils étaient bien plus riches que nous à la fin du mois, ils n'avaient pas la carte syndicale à payer. Donc ils n'avaient plus cette possibilité d'aller défendre leurs biens. Et en fait, j'ai assisté, c'est un triste bilan, mais voilà où on en est aujourd'hui, j'ai assisté à des gens qui de plus en plus ont acheté, se sont équipés, se sont sentis bien. Après, on a vu cette invasion de publicité, de catalogue. On vit bien sur un salon, on est toujours assis, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Le séjour, l'extérieur, tout est toujours net, les tondeuses sont là, etc. Il n'y a plus rien à faire. On a habitué à moins d'efforts. Et on en est à un triste bilan où maintenant, ça fait plus de 15 ans que je suis là maintenant, on ne peut plus acheter une paire de chaussures à scier, quoi. Et je connais des gens, quand je suis arrivée là il y a 15 ans, qui faisaient 40 km x 2 pour aller acheter une paire de baskets aux gamins, parce qu'elle était 8 euros moins chère qu'ici. Ben oui, mais si on compte l'usure des pneus, le gasoil, on a tout oublié, on a tout gâché. Et j'en suis alors, un des éléments.
Alors,
je le reconnais.
Un des mots que vous avez le plus utilisé, c'est « on ».
Oui.
C'est-à-dire une espèce de responsabilité collective.
Et j'en ai honte parce que j'ai pas eu la possibilité. Ça a été très vite et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Et je le constate encore dans certains foyers où malheureusement les revenus sont vraiment limites. Il y a des paquets de trucs qui sont commandés sur Internet, sur les catalogues, sur les publicités qui arrivent dans les boîtes aux lettres, qui inondent les plans de travail, les dessus de meubles et tout, qui sont des produits de manufacture étrangère qui seront jetés dans 4 mois à la poubelle.
Alors que le point sur lequel vous intervenez là, en fait, c'est tout simplement de dire que tout ne relève pas forcément directement du pouvoir et du politique, mais relève aussi de comportements individuels et de responsabilité par rapport à la survie de son voisin qui est peut-être petit commerçant, etc.
Voilà, tout à fait.
C'est ça que vous voulez dire, en fait.
Et on a fait les commerçants, les bouchers, tout le monde, et on a fait.
Alors attendez, attendez une petite seconde, monsieur, on va vous donner un micro. Attendez, est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous avez dit de façon à ce qu'on l'ait au micro?
Oui.
Bien dans le micro, monsieur.
Chez le boucher, le roast beef, il est à combien? 25, 30 euros le kilo.
La
Super U, il est à 12 euros le kilo. Le problème, c'est le pouvoir d'achat. Même si je vais à Auchan. Hein, le gasoil, il est moins cher, tout est moins cher. Comment voulez-vous faire travailler les gens sur place quand le pouvoir d'achat n'est pas là?
Quand vous me parlez du Super U, vous avez tout à fait raison. On a grand besoin d'un Super U.
Hein?
Ici. Je suis tout à fait d'accord
avec
vous.
Comment faire travailler un boucher, un petit commerçant, un épicier, même sur la place de la République là-bas?
Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon constat, parce que derrière.
Viens dans le micro.
Oui. Derrière ça, on a assisté aussi, vis-à-vis des élèves, des étudiants, à la prise de drogue. On a assisté vers une déviance, le goût de l'effort s'est effondré progressivement, et maintenant il faut avoir conscience de ces jeunes qui sont en difficulté.
Donc,
c'est toujours pareil. on emmerde les gilets jaunes, mais par contre, dans les cités, la drogue qui traîne à plein, parce que moi, je suis un ancien des Sablons, et je peux vous dire que là-bas, personne n'y va. Il n'y a pas un camion de flic qui y va là-bas. Non, parce qu'ils prennent des matelas, alors, tout ça dans la gueule, et personne qui y va.
C'est un constat attristant,
quoi qu'il en soit. On est parti là, il y a deux sujets qui ont été abordés. Ouais. Je voudrais qu'on revienne au premier.
Où il y a une vraie... Je réponds à la dame, parce que moi je suis artisan à Sillé, je suis photographe à Sillé. J'ai démarché toutes les écoles du canton, et on m'a répondu systématiquement la même chose. À part le canton de Sillé qui me fait travailler, les écoles de Sillé qui me fait travailler, toutes les écoles m'ont répondu, alors qu'ils ont des photographes qui viennent de Angers, de très loin, ils m'ont répondu, non, on a nos petites habitudes, donc non, on ne vous fait pas travailler, madame. Voilà. Ouais. Donc je trouve ça scandaleux quand même, qu'on fait venir des gens plusieurs kilomètres, qu'on ne fasse pas travailler son commerce
monsieur
local.
Monsieur a demandé le micro là-bas. La question qui est soulevée ici, c'est la question de la régulation du marché, hein, de savoir comment les prix sont fixés. Comment on peut soutenir plutôt un type de commerce qu'un autre et qui finalement domine et là on revient à ce qui a été dit au départ par Christian sur ceux qui ont le pouvoir, les grandes sociétés, etc. Hein, qui font la loi finalement. Bon, on y reviendra. Mais monsieur, ça fait longtemps qu'il souhaite intervenir. Monsieur, c'est à vous.
Monsieur Janvier Saint-Symphorien. Moi, je trouve aujourd'hui le gros problème que l'on a, c'est les... C'est nous qu'on avons, on a la plus grosse dette et c'est nous qui payons le plus d'impôts. Donc, et aujourd'hui, là, j'entends, on va encore...
Quand vous dites nous, monsieur, vous voulez dire ?
Les Français.
Les Français, globalement.
Globalement, les Français. Et encore aujourd'hui, là, on dit, ben, il nous faudrait encore ceci, cela. Il faudrait aussi peut-être que nos élus, je parle des élus de terrain, soient plus pragmatiques. Moi, je vois la chapelle Saint-Aubin, gendarmerie, hein. La gendarmerie de la chapelle Saint-Aubin, de Saint-Aubin, vient jusqu'à Sillé. Sillé va jusque là-bas aussi. On a fait une gendarmerie entre les deux, Conlie. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la voiture, malgré qu'on veut nous faire revenir au vélo. Il m'aurait semblé plus judicieux que la gendarmerie de Conlie soit faite à Sillé-le-Guillaume. Ça aurait épargné une gendarmerie de fête, donc des économies. Alors vous me direz, tous les élus souhaitent avoir une gendarmerie dans leur... Eh bien, il faudrait qu'ils s'y fassent, parce que on n'a plus de pognon, donc il faut bien en prendre quelque part.
Donc ça, c'est...
Première chose.
Oui, continuez, monsieur.
La 4C, puisque la 4C, on l'a...
Donc c'est la communauté de communes.
Communauté de communes. On a refondu les deux. On a un magnifique bâtiment à Conlie, qui a été fait. Et on a le deuxième qui est à Sillé, là. Il y a toujours du monde dedans. Quand on est une entreprise privée... Déjà, on dégage tout ça. Il y a un seul endroit. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je suis allé les voir pour la 4G, on m'a dit, ah ben c'est pas ici, c'est à Sillé. De Sillé, dire, ah ben c'est pas nous, c'est là-bas. Si bien qu'au bout du compte, c'est personne. On doit remettre tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait la 4C ? La première chose que l'on a fait, on a mis tous les employés ensemble. Et on a demandé un DRH. Donc encore en plus... Des impôts supplémentaires, parce qu'un DRH, c'est pas gratuit. On n'a pas mis tous les employés ensemble. Toutes les entreprises, quand elles se réunissent, on essaie de diversifier. Une boîte qui a 100 personnes, elle essaie d'en mettre 20 d'un côté, 20 de l'autre, parce que sinon, il y a un syndicat, il y a un truc de CHS, il y a tout un tas de bazar. Et ben là, on a mis 60 personnes ensemble. Et dans quelques années, voire beaucoup plus tôt, on aura des grèves qu'on n'a jamais connues chez nous. Ça, c'est nos élus, ça. Et c'est à eux de voir ces problèmes-là. Aucune entreprise ne fait ça.
Alors là, donc, vous intervenez sur la question de l'organisation des collectivités publiques, des collectivités locales, du millefeuille, qui travaille, comment on s'organise. Est-ce que quelqu'un va intervenir peut-être parmi les élus sur cette question, parmi les élus, hein, pour avoir une réponse, puisque non. Alors,
je suis pas élu,
hein. Non, mais je vois bien, mais Donc les élus, non. Dominique Amiard. Une petite seconde. On laisse Dominique Amiard répondre sur ce sujet très vite. Hein, et à vous, monsieur le micro, juste après.
Oui, alors la question de l'intercommunalité, il faut la replacer aussi en perspective par rapport à nos communes. On a des communes qui sont de relative petite taille, et aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ne peut plus gérer dans nos communes avec nos conseils municipaux et le peu d'argent que l'on a, parce que c'est devenu trop compliqué. Pour prendre le seul exemple des ordures ménagères, vous savez bien qu'à une époque, on ramassait ça avec le tracteur du petit agriculteur du coin, on baignait ça dans le fond d'un chemin, on mettait un peu de terre par là-dessus, et l'affaire était réglée. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut ramasser ça donc dans des conditions avec le tri sélectif, avec etc. Et puis après, il faut faire de la valorisation, il faut énergétique. Enfin, bon, c'est vraiment trop compliqué. Il n'y a guère que dans le cadre de l'intercommunalité, en communauté de communes, quand on peut réunir des moyens humains, techniques et financiers, qu'on peut gérer ça. Si on parle par exemple de la petite enfance, bon, si on veut offrir un service de petite enfance, c'est pas, enfin, je veux dire, moi dans ma commune et puis à Saint-Symphorien ou ailleurs, on peut pas le faire non plus. C'est pas possible. Donc, si on veut avoir un territoire qui est quand même assez attractif malgré tout pour des jeunes ménages, etc., il y a un moment donné, il faut qu'on se regroupe et puis qu'on essaie aussi de travailler ensemble dans certains domaines sans déshabiller trop les communautés, les communes, parce que nos conseils municipaux, enfin nos conseillers municipaux ont aussi besoin aussi de continuer à travailler et avoir une action de proximité. Donc il faut réussir à trouver la bonne articulation entre l'intérêt de la communautaire et puis l'échelon communal.
Monsieur, vous aurez le micro, mais d'abord, monsieur avait demandé derrière, et après, ce sera vous. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci.
Oui, c'est bon.
C'est bon. On a suffisamment de micros pour faire le tour, il n'y a pas de souci. À vous.
Oui, pour les gains, je suis assez d'accord avec le monsieur. On est un pays assez extraordinaire. On a divisé par deux le nombre de régions, et au final, on se retrouve avec plus d'élus et d'employés territoriaux qu'au départ. C'est aberrant. C'est complètement aberrant. Les communautés de communes, c'est très bien, parce que je pense qu'il faut que les communes mutualisent leurs moyens, effectivement, pour être beaucoup plus efficaces. Je pense qu'une organisation en France avec les communes, parce que c'est là qu'on est vraiment auprès des citoyens, ensuite les régions, et après l'État. Et chacun a sa responsabilité. Alors, je vais me fâcher avec le monsieur représentant le Conseil général, mais franchement, d'un point de vue politique, les départements, ça n'a plus aucun sens. Par contre, au niveau de l'État, oui, il faut que les préfets restent parce que l'État a besoin des relais pour administrer le territoire. Mais ce que fait le Conseil général, ça peut se traiter à la région beaucoup plus efficacement et sans problème, à mon avis.
Alors, c'est un point sur lequel tout le monde a son idée, évidemment, hein, des éléments qu'il faudrait retirer. Derrière, il y a quand même une question, hein, c'est que tout ça, c'est aussi des services qui sont pris en charge, des personnes qui s'occupent de développer des services sur les territoires. Il y en a aussi besoin, c'est des emplois. Voilà, donc oui, mais tout ça est problématique. Monsieur.
On veut faire des économies, mais c'est pas en faisant comme la communauté de communes est fait.
Ouais.
Faut voir devant chez nous, parce que la communauté de communes, comme elle le fait, tout le monde a ses camions. Une entreprise, quand elle fonctionne, où il y a 4 camions, quand on refond tout le monde, il n'y en a plus que 3, voire 2. Nous, c'est pas la même chose. On grossit, parce qu'on est très content de dire, moi, mes élus, je suis élu, et j'ai tant de personnes. J'ai 60 personnes sous ma coupe. Ça n'existe pas. Il y a que là. Et en même temps, justement, on devrait avoir beaucoup plus de matériel de disponible, puisqu'on est tous ensemble, mais on a quand même chacun les siens.
L'idée qui court, c'est l'idée qu'il faut encourager la mutualisation. C'est en gros ça l'idée qui est actuellement là.
Mais pas celle-là, celle qu'on a aujourd'hui.
On va donner le micro à monsieur, oui, on vous écoute. Présentez-vous, monsieur.
Oui, monsieur Julien Tillier-Guéon. Moi, je suis étonné que monsieur Macron ait eu besoin des maires pour le débat national, parce que il a méprisé les maires depuis qu'il est à l'Élysée. En plus, quand les maires se sont réunis la dernière fois, il n'a pas daigné se déplacer. C'est l'un des seuls présidents qui n'est pas venu au congrès des maires. Donc, il n'en avait pas besoin, sans doute, hein. Il vient pas au congrès. Par contre, il invite 1000 maires le soir à l'Élysée. Et ceux-là, ils sont triés sur le volet. C'est pas parce que ça, dans la logique, si c'était la démocratie, ça devrait être tiré au sort. Et au moins, il y aurait 1000 maires et puis ça serait pas tous les ans les mêmes. Dans les 3 débats qu'il a fait, là, en Normandie, dans la Drôme et puis l'autre, là,
Souillac.
Il y avait des maires et tous ces maires-là étaient invités ils sont pas venus de leur propre gré. Alors moi, la démocratie que De Gaulle nous met là-bas, là oui, mais celle-là, non, ça c'est pas de la démocratie de faire ça, hein, de mépriser les gens comme ça.
On a bien entendu ce que vous disiez, monsieur. Gérard Galpin voulait intervenir. Je pense qu'il va nous parler du département.
Oui, alors dans la suppression. Non, mais il y a aucun problème. Moi, je suis très libre là-dessus. J'ai discuté de qu'est-ce qu'on peut supprimer. Je pense qu'il y a un nouveau redécoupage à faire. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, au exemple, les transports sont passés à la région. Mais on a quand même gardé les deux gars du département qui étaient au transport dans la Sarthe, parce que vous comprenez bien que le gars qui avait été à Nantes, la Rousselière à Mont-Saint-Jean, il va pas savoir où c'est l'arrêt de car. Hein. Donc voilà. Donc on a gardé les deux gars dans la Sarthe. Et ils sont maintenant payés par le département, par la région, par la région, mais ils sont restés dans leur bureau du département parce que on a besoin d'une connaissance du territoire. Ça c'est un exemple. Comment?
Oui, micro.
Ça c'est normal.
Gabriel.
Ouais.
Attendez, madame. Je voulais Gabriel donner, vous donne un micro.
Je voulais donner l'exemple, cet exemple-là.
Oui.
Oui, mais
madame.
En fait, c'est la région qui est responsable, mais qui est des délégués, comme vous dites. Dans les départements qui représentent les départements à la région, ça c'est tout à fait bien. Mais un conseil départemental, c'est pas forcément.
Je ne dis pas le contraire. Voilà. Je ne dis pas le contraire. On peut se poser aussi la question sur les pays. On peut se poser la question sur plein de choses.
Oui.
Alors moi j'aime bien regarder ce qui se passe à côté. Vous prenez l'Autriche, par exemple. L'Autriche a fait un choix de ne pas faire des comités de communes. En revanche, de mutualiser les moyens, de faire des communes, entre guillemets, nouvelles, et de mutualiser les moyens. Vous arrivez en Autriche, 30 km avant la ville centre, vous avez X communes de la ville centre. Et eux, ils ont fait ce choix. Ils ont fait aussi un choix de ne pas avoir de grandes zones industrielles, de permettre à chaque village de garder une ou deux entreprises, ce qui permet de garder aussi le café, ce qui permet aussi de garder l'école. Donc ça, ce sont des exemples. Hein. Mais en France, c'est vrai qu'il y a un nouveau découpage à refaire, je pense. Mais il ne faut pas oublier la proximité. Parce que si on met tout à la région, vous savez, la Sarthe et Nantes, c'est loin. Hein.
Non, mais je suis d'accord, il ne faut pas mettre tout. Il faut laisser de la proximité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la proximité qu'on n'est pas obligé quand même de centraliser. Par exemple, moi, j'étais professeur à l'éducation nationale. C'était le ministère de l'éducation nationale qui nous gérait, mais j'avais un proviseur qui était sur place. C'est ça que je veux dire.
Alors, la question qui se pose, c'est qui décide de quoi ? Qui a les pouvoirs? C'est le problème de la vraie décentralisation et d'un vrai pouvoir décentralisé ou d'un pouvoir recentralisé, comme on le voit se développer depuis quelque temps. Et c'est là qu'il y a un enjeu. Et Damien Pichereau, peut-être, je pense, là-dessus, pourra tout à l'heure nous dire un mot, après la question qui est posée par Gabriel, par Facebook, que nous donne ici Théo.
Oui, donc.
Non, on t'entend pas. Oui.
Oui, donc une question qui nous vient tout droit du live Facebook en cours. Devrait-on favoriser les fusions de communes pour faire des économies ?
Aller encore plus loin. Damien, est-ce que vous pouvez intervenir justement sur cette question ? Parce que là, c'est compliqué. C'est à la fois ce qu'on voudrait à la base, et puis l'État, quelque part, qui décide d'un certain nombre de choses sur la façon dont ça se structure, et le citoyen ne s'y retrouve plus.
Ouais, monsieur, tout à l'heure, a tout résumé, en fait. C'est tout le problème du statut, en fait, de effectivement la fonction publique qui fait que quand on fusionne, on ajoute. Après, c'est sur le long terme avec un départ en retraite, malheureusement, avec ça, qui fait qu'on peut ne pas remplacer et améliorer justement l'efficience d'un système et l'efficacité du système. Mais c'est vrai qu'il y a que comme ça. C'est vraiment le problème, c'est le statut de la fonction publique. J'avoue qu'on avait l'objectif aussi de réformer ce statut de la fonction publique et notamment la fonction publique territoriale. Et là, je crois que votre maire pourrait en parler pendant des heures. Mais on est aussi confronté à de grosses objections qui font que cette réforme, elle est très, très compliquée à mener. Plus largement, et ça me permet de répondre à monsieur que je salue, mais qui m'écoute pas, je crois d'ailleurs, tout à l'heure, qui m'interpellait sur la question des écoles. Je souhaite juste en revenir là-dessus. Est-ce que c'est le but du débattre du constat? Je suis pas vraiment sympa, certain, pardon. On est ici pour trouver avant tout des solutions. Si on dit qu'il faut plus de profs, plus d'infirmières, moins d'impôts, bien évidemment, moins de dettes, moins de chômage, plus de pouvoir d'achat, c'est exceptionnel. On peut peut-être même faire un parti politique et faire un programme. Maintenant, je pense que c'est pas le débat aujourd'hui. Vous m'aviez dit que vous avez plein d'idées pour les recettes. On en a parlé en première partie. C'est dommage. J'aurais aimé vous entendre sur ça pour savoir où on peut trouver l'argent. C'est plus le débat maintenant. Mais voilà, on est là pour parler de propositions. Le diagnostic, je pense qu'on est beaucoup à le partager. Et je le partage avec vous. Mais on est là pour partager avant tout des solutions et des propositions. C'est dommage que vous rentriez pas dans ce débat.
Alors, vous êtes directement interpellé. Donc, allez-y.
Justement, c'est le débat, là. Le débat, c'est l'argent. Vous voulez détruire le service public. C'est un objectif. De toute façon, le service public, c'est quelque chose à détruire, à détruire, à détruire. Ça fait déjà plusieurs années qu'on l'entend. Vous voulez le détruire. Vous êtes les nouveaux, les vieux cons, vous dégagez. Alors, quand je parle de vieux cons, c'est les vieux cons politiques. Les anciens, les Sarko, les Hollande, enfin, bref, quoi. Donc, vous avez balayé, et vous voulez balayer le service public, c'est-à-dire les hôpitaux, ils vont mourir tout seuls, les hôpitaux. Les écoles, on les fait crever, puis on pourrait prendre tous les services publics, le service de transport, la SNCF, machin, l'aéronautique, allez circuler, il n'y a rien à voir, tout va partir comme ça. Et la seule chose, où vous trouvez l'argent? Je vous dis, il y a de l'argent, moi. Il y a quand même des gens qui se foutent plein d'argent dans les poches. Plein, plein, plein. Alors, oui, ou alors, je prendrais l'autoroute, c'est quelque chose. On a donné les autoroutes. Alors, maintenant.
Moi, j'ai rien donné.
Etc., etc. Alors, moi, je vous dis, vous faites de la politique. Vous faites de la politique. Vous vous êtes engagé. Vous avez un programme. Vous n'avez pas de programme, j'en sais rien. Mais à partir du moment où on fait de la politique et qu'on a des responsabilités nationales, c'est qu'on a une idée sur le devenir du pays. Sinon de dire c'est toujours de la faute à un tel, c'est toujours on s'en fout de ce qui s'est passé en 40.
J'ai pas dit ça.
C'est aujourd'hui
la teneur de ce que je disais, monsieur,
on s'en fout.
C'est juste que l'intérêt du débat aujourd'hui, c'est pas de débattre du diagnostic et du constat, c'est de trouver des solutions. Et que vous n'en proposez pas.
Ça me fait rigoler parce que quand vous parlez de trouver des solutions, il y a une dénommée Ségolène Royal qui a parlé de débat participatif il y a quelques années, on l'a pris pour une demi-folle.
D'accord.
Aujourd'hui, il faut un débat participatif. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'un type comme Macron, qui, bon, on l'aime pas, mais il est pas idiot quand même, pour arriver à 40 piges d'être président de la République, faut quand même le faire, On peut lui dire ça.
Par défaut.
Si, faut le faire. Parce qu'on lui a pas laissé la place, Bon, enfin bref. Mais.
Comment?
Non, mais. Bon, d'accord. Par défaut. Mais, ça a été coupé dans mon élan. Donc, ce que je veux dire, tout simplement, c'est vous avez un programme, faut mettre un programme en place. Les débats participatifs, on a l'impression que le président de la République, il a vu les gilets jaunes. Oh, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, là ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, comment il s'appelle Castaner, il les appelle les émeutiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les émeutiers. Et on va leur tirer dessus comme qu'on tirerait sur des lapins.
La foulée de les émeutiers.
Castaner aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis. Alors je continue. Donc, vous avez aujourd'hui, Macron, il doit être à court d'idées. Où il est où son programme, là? Si ce n'est que il est où son programme à Macron? C'était quoi son programme? Je balaye tous les vieux politicards, mais il a rien derrière. Derrière, c'est que du vent. C'est que du vent. Et aujourd'hui, il se rend compte aujourd'hui qu'il faut qu'il redescende un petit peu de son échelle et qu'il s'adresse au public, quand même. Et quand je dis au public, c'est-à-dire les syndicats, il faut quand même les partis politiques. Et puis au dernier round, il faut quand même que je parle au petit peuple, parce que je descends dans la rue voir le petit peuple et j'organise des débats où je suis sûr de ne pas être embêté, où j'aurai, disons, un public qui sera bien consentant et qui m'écoutera.
Pour revenir à la question que posait Damien Pichereau, mais quelle solution que faire, qui est aussi une question qui se pose.
Il a posé c'est bien posé.
On a compris que l'idée générale, c'est d'aller chercher les fonds là où ils sont. Effectivement, comme ça a été expliqué en début de débat, du côté des plus aisés, c'est là-dessus que Jacques, donc tu reviens. C'est une évidence. sur l'idée du débat participatif, effectivement, c'est une idée qui n'est pas totalement nouvelle, qui n'a pas pu se mettre en place. L'idée de réaliser des débats maintenant et de pouvoir prolonger cette démarche reste une démarche sur le fond qui est quand même intéressante. En même temps, c'est difficile de dire Macron, il a un programme. Et il l'applique pas, il a de dire, enfin, il l'applique et de dire en même temps, bah voilà, il nous consulte pour changer, et appliquer votre programme, c'est vous qui êtes chargé de le faire. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence à un moment, là-dessus, et il va falloir essayer de la trouver. Oui, monsieur, oui, vous étiez en train de réagir, oui.
Oui, ça marche?
Oui, c'est bon.
Ouais, il me semble qu'il y a eu un décret en décembre 2018, là, concernant la suppression des enquêtes d'utilité publique. Vous me confirmez, monsieur Pichereau? Ouais, il me semble, hein. Alors là, on fait un grand débat pour amuser la population, puisque monsieur Macron a dit avant de commencer qu'il détricoterait pas ce qu'il a fait, et il continue sa politique sans dévier d'un pouce, quoi, et il garde le cap. Il écrabouille les chômeurs, bientôt il va y avoir au niveau de l'APL, on va s'en prendre une couche sévère, beaucoup plus sévère que les 5 euros, mais là je sors un peu du sujet. Il y a eu également, il me semble, un relèvement au niveau des plafonds pour les chantiers publics. On est passé à 100 000 euros. Au-dessous de 100 000 euros, il n'y a plus besoin de faire d'appel d'offres. Voilà. Alors, dans les petites communes, j'ai parfaitement confiance. Mais, bon, vous en pensez ce que vous voulez.
On a une question qui nous arrive ici. Par les nouvelles technologies, c'est Mathilde qui nous demande « Bonjour, devrait-on développer la télémédecine dans nos territoires ruraux ?» Donc la question de la télémédecine, si quelqu'un veut intervenir aussi sur ce sujet pour répondre à Mathilde ou contribuer aussi. Alors, attention, qui veut intervenir? Christian? Non, c'est... Oui. Oui, Dominique Amiard.
Si vous voulez une piste d'économie, moi je vais vous en donner une.
Allons-y.
Et je peux vous assurer qu'elle est substantielle, elle concerne toutes les agences et établissements de cette nature. Alors, je suis d'ailleurs surpris que personne n'en parle.
S'il en a été question tout à l'heure.
Ah bon, excusez-moi. Oui. Il y en a quand même au moins 1200 en France. Donc 7 à 800 qui ont un statut d'agence, ce sont des sommes considérables qui sont engagées par ces agences, dont certaines n'ont plus aucune raison d'être. Elles ont été créées à un moment donné avec un objectif. Mais elle continue à exister, donc avec évidemment des salaires, des employés, etc. Et c'est des sommes considérables. Ça a permis de faire diminuer le nombre de fonctionnaires, puisqu'on les a transférés dans des agences, ils sont plus comptabilisés dans les ministères. Mais en réalité, ils continuent à être payés par l'État, puisque c'est le budget de l'État qui alimente le fonctionnement de ces agences. Et ces agences sont hors de contrôle. C'est-à-dire qu'à la limite, les députés votent chaque année le montant qui va être attribué à chaque agence, et ensuite, elles ont un fonctionnement totalement indépendant. Vous pouvez aller voir le préfet, etc. Le préfet vous dit, moi je ne peux rien sur ces agences qui sont vraiment aujourd'hui hors de contrôle.
Mais
sur la question...
Fait quoi?
Eh bien, il faut restructurer complètement. Je ne dis pas qu'il faut toutes les supprimer, mais quand vous en avez 1200, et il y en a au moins les trois quarts qui n'ont plus leur raison d'être. Alors, de temps en temps, on en fusionne deux ou trois, mais ça se voit même pas dans le paysage. Hein. C'est absolument... Alors là, vous avez des sommes monstrueuses à économiser. Et en fait, aujourd'hui, même certains ministres n'ont quasiment plus d'autorité sur ces agences-là. Hein. Alors, je vous parle pas du préfet ou des élus locaux. Après, la question a été de dire tout à l'heure, si on fusionne, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on fait des économies? Vous savez, il faut déjà se remettre les choses vraiment en tête. Il y a des territoires, il y a des collectivités où l'argent coule à flot. Quand l'argent coule à flot, la dépense coule à flot. Et à côté de ça, vous avez des territoires où c'est la misère absolue. C'est-à-dire vous avez une fracture territoriale comme il y a une fracture sociale. Vous pouvez marier, fusionner 2-3 communes de misère. De toute façon, il n'y a aucune économie à faire parce que les élus sont déjà bénévoles, les services sont au minimum, les routes, il faudra continuer à les entretenir, les gamins, il faudra continuer à les scolariser et leur donner à manger le midi. Il n'y a rien à récupérer sur ces communes-là. Mais par contre, on va vous expliquer que, bien sûr, ce sont toutes ces petites communes-là qu'il faut supprimer, qu'il faut fusionner. Mais en réalité, moi, vous pouvez me marier ma commune avec celle d'à côté, il n'y aura rien, rien à récupérer, je peux vous l'assurer.
Et pour que les communes soient moins pauvres, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut simplement une justice, une péréquation, c'est-à-dire que plus, enfin, depuis des décennies, on a concentré l'emploi. C'est-à-dire les entreprises. Or, ce sont les entreprises qui payent des impôts au titre de la fiscalité professionnelle. C'est ça qui fait toute la différence sur le territoire. Plus c'est concentré dans les grandes métropoles, plus elles ont de l'argent, et vous avez plus de commerce, vous avez plus d'artisans, vous avez plus rien dans le monde rural, à part des exploitations agricoles, mais ils payent pas de taxes professionnelles. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment un découplage, une fracture considérable, et il faut absolument remettre plus de péréquation, redistribuer la richesse pour que tout le monde puisse vivre et que nous, on puisse aussi développer localement des petits services de proximité, enfin, je veux dire, raisonnablement, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'amener le tramway ou de faire une piscine olympique dans chacune de nos communes.
C'est la proposition. Christian.
Oui, un peu pour rejoindre...
Ah, madame, excusez-moi, ce sera vous, oui.
Pour rejoindre un peu le côté... en ce moment, il y a Guillaume Garot qui est en train d'œuvrer donc au Sénat, là, qui essaie de se battre et se débattre... pour essayer de faire passer une loi, Guillaume Garot.
Rappelez qui est Guillaume Garot.
C'est un élu de la Mayenne.
Parce que voilà, il est de la Mayenne, il n'est pas de la Sarre, donc voilà. Il est peut-être moins connu.
bon, et on s'aperçoit que son projet est rejeté. Personne n'en veut. Enfin, certains groupes politiques n'en veulent pas. Et ce qui fait que notre région, notre département est devant un grand désert, le désert médical. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de médecins, il n'y a même plus de médecins. Enfin, et j'en passe et j'en passe. Moi, je voulais pas trop m'intégrer dans ce débat parce que j'ai l'impression là qu'on est arrivé dans un débat qui m'en semble être plutôt la commune, les structures. Mais où sont les gilets jaunes qui n'ont pas à bouffer? Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que nous, ce soir, on est capable de décider? Qu'est-ce que nous, ce soir, on est capable de se réunir comme on le fait là? Bravo, je suis pas contre les débats. J'étais trop longtemps responsable de lieu, il y avait beaucoup de débats. Mais il faut que ce débat débouche sur ces gens qui, aujourd'hui, ne peuvent plus prendre leur voiture. Je tiens à vous dire que le gasoil augmente. Vous l'avez remarqué quand même à la pompe, hein? C'est reparti, ça y est. Bravo le gouvernement, il nous a fait une bonne. Mais le gouvernement, il est rusé. Qui s'appelle du Schmoll ou Pompidou, j'en sais rien, c'est pas grave. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a, en ce moment, une France qui est déréglée, qui ne fonctionne plus rapport à l'humain, qui ne fonctionne plus que rapport à des structures. Mais malheureusement, ce fonctionnement fait que, aujourd'hui, nous avons entre 10 et 12 millions de pauvres. Et pour aider ces pauvres, nous demandons, je demande au gouvernement de trouver 70 milliards pour redonner à ces gens-là dignité et quelque chose dans leur assiette.
Merci Christian. Je crois que Gérard Galpin voulait intervenir. Et madame, vous avez le micro. Ah, excusez-moi, je crois que madame, vous l'aviez même avant Gérard Galpin. À vous madame.
Bonsoir, je suis Alexandra, je suis une citoyenne toute simple qui connaît pas trop les chiffres de la France, qui suis toute simple et qui en bave chaque jour pour finir les fins de mois. Et je me pose une question qui n'est pas encore venue aujourd'hui, ce soir, qui n'a pas été traitée.
Allez-y, vous êtes là pour l'exprimer. Allez-y, vraiment.
Enfin, ouais. Je trouve quand même bizarre qu'on paye encore les anciens présidents. Ils ont fait leur travail, d'accord. Ils ont des salaires qui sont vraiment très...
confortables.
Largement. Oui, le mot est vraiment faible. C'est indécent, je trouve. Indécent, et je pense qu'on devrait commencer par là, diminuer, leur mettre une retraite. Pourquoi pas comme les gens, comme les citoyens.
Vous voulez dire comme tout le monde, quoi,
comme
tout simplement.
Comme tout le monde, voilà. Une retraite cohérente avec ce que les citoyens réclament. Ils ont fait leur travail.
Ce que vous voulez dire.
Comme ils ont fait, bien ou mal, ils ont fait leur boulot. Et maintenant, merci à eux, ou pas. Et voilà, ils reviennent à leur place de citoyens et ils ont plein d'argent à nous donner. On a plein d'argent à récupérer de ce côté-là, à mon avis.
La question,
c'est que les privilèges, ça suffit.
Ce que vous évoquez là, c'est la Révolution française, abat les privilèges et effectivement qu'on soit tous traités à égalité.
Parce que franchement,
d'avoir secoué le cocotier largement.
Voilà,
ouais,
il faut c'est ça l'idée. Continuer. Et on est tous des gilets jaunes et voilà.
Voilà, merci madame pour votre intervention. C'est Gérard Galpin qui.
Moi, c'était pour. Je suis désolé, c'était pour aller avec les propos de Dominique. La répartition des richesses,
donc,
oui.
Donc Dominique, maire du Cure, préciser pour les personnes qui ne sont pas dans la
Dominique
salle.
Dominique Amiard, c'est juste, il parlait de la répartition des richesses. Il faut savoir qu'entre les urbains et les ruraux, déjà la DGF, on n'est pas mis sur la même longueur d'onde, si je peux dire. En gros, lorsque les zones rurales touchent 100 euros, les urbains touchent 200 euros facilement. Donc, vous comprenez bien que les investissements pour les services publics ne sont pas la même. On n'a pas les mêmes puissances de feu. Les élus, vous savez, faut pas rêver. On est aussi des gilets jaunes. On n'arrête pas de se bagarrer. On se bagarre. On vient de passer 2 ans à Sillier, 2 ans pour se bagarrer pour la réouverture de la radiologie. Et c'est un travail qui a été fait. Je peux vous dire, c'est 2 ans de bagarre. C'est 2 ans où tout le monde a retroussé sa chemise, y compris le député, y compris les élus sillyens, y compris les réunions de la communauté de communes, les services de l'État. Tout le monde s'est bagarré. Je veux dire par là, il n'y a pas chacun. Chacun a son rôle. Je veux dire par là, les élus, on a notre rôle. Nous aussi, on se bagarre pour garder nos services publics. Faut pas rêver. Et je comprends bien la problématique des gilets jaunes aujourd'hui, cette pauvreté qui s'installe, c'est cette vie qui n'est pas facile et qui voilà. Alors, faut pas essayer de comparer non plus, faut pas essayer de se mettre les uns contre les autres, ça sert à rien du tout.
Une intervention, voilà, monsieur, oui, on vous écoute.
Bonjour, je suis Christophe, donc j'habite Saint-Martin-de-Connay.
Ceux qui savent pas, Mayenne.
Voilà. Moi, je vais réagir à la dame. Moi, je suis gilet jaune depuis le 17. Je vais vous dire au jour d'aujourd'hui.
17 novembre. Hein.
Depuis 17 novembre, voilà exactement. Moi, j'étais au rond-point de l'Océane. Donc, j'ai été là-bas, on a été délogé. On a été après, juste en haut, délogé pareil. Raffinerie, délogé. La dimanche dernier, on a repris la raffinerie. Vous savez quoi? Lundi matin, on nous a interpellés. Moi, j'étais en garde à vue. J'ai fait 24 heures de garde à vue. Aujourd'hui, je suis gilet jaune. Toujours gilet jaune. J'irai toujours manifester. Mais sauf qu'on nous empêche d'aller manifester. Parce que maintenant, celui qui va manifester est interpellé directement. Comme un voyou. Et voilà, et contre les casseurs. Donc voilà, on n'est pas tous casseurs. Il y a même pire que ça. Voilà, je vais vous dire, il y a même pire que ça, voilà. Moi, j'ai été jeté contre le mur, je vous dis, je vais t'arrêter contre le mur. J'avais rien fait, j'allais à ma voiture. On me dit première sommation, je m'en vais. Pas de souci.
Merci pour votre intervention. Oui, monsieur.
Mais j'approuve totalement, monsieur. Mais c'est pire que ça. Il y a des gardes à vue préventives. C'est-à-dire, vous descendez du train à la gare Montparnasse, on vous ouvre votre sac et vous êtes mis en garde à vue, alors que vous avez encore rien fait.
Une autre intervention, monsieur, oui. Présentez-vous, monsieur, oui.
Alors moi, c'est Bruno.
C'est votre première intervention, oui.
Voilà, je suis arrivé récemment dans la région, donc à Sillé le
Guillaume. Bien près du micro.
Oui. Et il y a un malaise, et ce malaise-là, il était bien avant que les gilets jaunes ne se mettent en route. Ça fait 30 ans. 30 ans que dans les communes, les gens se taisent et n'en peuvent plus. Il y a eu des magouilles. Moi, j'en ai connu parce que j'étais en Seine-Maritime. Des magouilles au niveau de la commune. Et on m'a fait taire parce que je savais. Et les gens venaient me voir. Après, j'ai donc décidé de partir parce que, on vous écrase. Vous êtes un petit citoyen. Vous n'avez pas la parole. Maintenant, je sais que je l'ai puisque j'ai le micro. Et je suis d'accord avec la plupart d'entre vous. Mais il y a ce malaise, c'est pas qu'aux citoyens. Pourquoi on a élu un président et un gouvernement? C'est pour lui qui doit trouver le problème. Pourquoi on fait des débats? La solution, c'est à eux de l'avoir. Certes, on a une pierre, un petit bout de pierre à mettre à cet édifice, mais il faut quand même qu'on nous écoute. Parce que là, le débat, il va aller où? La question, c'est vers où on va? Voilà la question que je vous pose, monsieur le député.
Voilà, donc vous revendiquez effectivement le droit de pouvoir vous exprimer, de pouvoir dire des choses. et puis surtout de pouvoir être entendu, ce qui n'est pas toujours le plus simple. S'exprimer, c'est bien, être entendu, c'est encore mieux. On va devoir aller aussi vers le sujet de la transition écologique, hein, parce que c'est un sujet important.